Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revenons donc en ce début de semaine au roman de Alice Zeniter, L'art de perdre. Hamid court le long de la route. Il dégouline de sueur et ses genoux lui font si mal qu'il a l'impression d'être en train de se disloquer. Tu vas jusqu'au magasin, tu donnes l'argent à Hamza et tu reviens, lui a fait promettre Ali. Tu ne perds pas de temps en route, tu ne t'arrêtes pas. Hamid a promis et il fonce malgré le soleil de plomb. Il se grise du sentiment de sa propre vitesse. Un homme surgit soudain sur le chemin et tend le bras pour arrêter le petit garçon. Dès que Hamid ralentit, il sent l'odeur de sa propre transpiration qui lui entre dans le nez. L'homme au milieu du chemin lui sourit. Il a de belles dents blanches dans le mur noir et roux de sa barbe. On dirait qu'elles dorment là dans le nid des poils. Tu es le petit d'Ali, toi. Il a l'air très heureux de tomber sur lui. Hamid hoche la tête. Tu fais les commissions pour ton père. Nouveau hochement de tête. Le sourire s'élargit. Alors, fais-en une pour moi aussi. Hamid acquiesce en sautillant, il espère que ce ne sera pas trop long. Il voudrait repartir en courant si vite qu'il distancerait l'odeur de son propre corps. Dis à ton père, articule lentement l'homme en passant un doigt sur sa gorge, que d'ici peu, on lui fera la peau. Il prononce la phrase en souriant comme s'il n'essayait pas d'effrayer le petit garçon, comme s'il s'agissait d'une perspective certaine et agréable. Longtemps après, Hamid se demandera encore si l'homme a voulu les aider, leur permettre d'échapper au couteau qu'il annonçait ou s'il avait simplement partagé avec lui un petit morceau de ce futur radieux que le FLN instaurait pour tous. C'est comme ça que ça va se passer, voilà, merci. Une part de lui s'obstine à vouloir que ce soit Youssef qui lui ait envoyé ce dernier message au nom des anciens jours de la rivière. Hamid répète à son père les propos de l'homme souriant en guettant sur son visage le moindre tremblement. Il voudrait qu'Ali balaie la menace d'un revers de la main et continue de boire son lait caillé imperturbable, royal. Mais Ali devient blême et repose son verre sur la table dans un claquement. « Qui c'était ? » demande-t-il. Sans s'en rendre compte, il a attrapé Hamid par le col et le secoue. La petite Dalila se cache les yeux. « Un des fils de Farid, je crois ?» bégaye Hamid. Ali tord la bouche en un rictus méprisant. « Lui, il t'a dit ça, lui ? Il veut venger le pays, mais c'est un martien !»« L'indépendance, il a commencé à y croire une fois que les accords ont été signés. Et maintenant, il roule des épaules à dire qu'il a fait la peau à la France. Il aurait vendu son père et sa mère à la France, si la France, elle en avait voulu. » Hamid entendra plusieurs fois cette expression dans les années qui vont suivre. C'est un martien. Il finira par comprendre qu'elle désigne ceux qui ont rejoint le FLN au mois de mars, au moment de la signature des accords. mais pour l'instant elle ne signifie rien, n'évoque même pas les créatures vertes et lumineuses qu'il découvrira sur les pages crépusculaires des bandes dessinées. C'est une insulte flottante et dépourvue de sens. Au-dessus des restes du dîner, les murmures sifflants de Jamel, Hamza et Ali traversent les murs et parviennent aux enfants qui ne dorment pas. « C'est ta faute, Ali, c'est ta faute, mon frère. Pourquoi tu as voulu dire partout que tu étais pour les Français? Maintenant, le FLN va venir et ils nous tueront tous. » « Tu délires, » répond Ali, « je n'ai jamais dit que j'étais pour les Français. Et je n'ai pas touché un fusil. Ils n'ont aucune raison de nous en vouloir. Moi, on m'a demandé qui étaient les familles de la Crète. J'ai répondu, j'ai dit un tel est le cousin d'un tel. Mais tout le monde le savait. On m'a demandé, explique-nous tel endroit. J'ai expliqué l'endroit. Où était le ruisseau? Où étaient les rochers? Mais c'est tout. Je ne suis pas un traître. » Même si tu avais fait moitié moins, ils trouveraient que c'est trop. Tu crois que les âmes rouches ont besoin de preuves pour venir nous prendre la ferme? Tu crois qu'ils n'attendent pas que ça? Ils salivent par-dessus depuis des années, et maintenant les fils de Farid s'y mettent aussi. Ils vont tout prendre, bien sûr, ils vont tout prendre. C'est ta faute, Ali. Parce que toi, peut-être, tu étais un moudjahid, demande méchamment Ali. C'est pour ça qu'ils t'ont laissé remonter, sans même t'arracher un cheveu. « Je ne sais pas pourquoi ils m'ont relâché !» hurle Hamza. Ils se taisent. Abattus, déchirés, trois grands corps écrasés par le poids de ce qui va venir. Ils vont lâcher sur nous les chiens de l'indépendance. Le printemps chaud devient l'été brûlant et les chansons moqueuses qui accompagnent Ali lorsqu'il se promène sur la crête se changent en insultes. Il ne pourra même pas dire quand s'opère la transformation. Elle paraît être une sorte de croissance naturelle et continue comme pour une plante dont les bourgeons lentement deviennent fleurs puis fruits. Les hommes au bord de la route, la houe sur l'épaule, sifflent entre leurs dents à son passage. Un par un, les ouvriers qui cultivaient ces terres cessent de venir au travail. Ali et ses frères doivent se résoudre à reprendre leurs outils. Au soir, leurs mains attendries par les années d'inactivité saignent et brûlent. Un beau matin, Ali constate que les enfants lui jettent des pierres. Ce pourrait être terrifiant, mais ils le font comme des enfants, avec un mélange de cruauté et de joie rayonnante, sans cesser de babiller. Au comptoir déserté comme autour de ses granges, des hommes qu'il ne connaît pas rôdent, tête baissée, regard brillant. Interrogés sur les raisons de leur présence, ils répondent qu'ils passent simplement acheter des olives. Mais quand Ali veut leur tendre un seau ou une jarre, ils refusent avec de grands gestes. « Non, non, on prend pas maintenant, on reviendra chercher tout à l'heure, tu entends? On reviendra !» Ils s'en vont en riant, les yeux roulant dans tous les sens. Yema décide de ne plus sortir parce qu'à la fontaine, un homme l'a insulté et a arraché son fichu jaune frangé de noir. La nuit, au moment de s'endormir, elle se pelotonne contre Ali de sorte que ni bras ni jambes ne dépassent du grand paravent de son corps. En se glissant en douce hors de chez eux avant que ses parents ne se réveillent, Hamid découvre qu'on a chié devant leur porte. Curieusement, l'odeur ne le dérange pas. On dirait des fleurs qui ont pourri. Le lendemain, il trouve une oreille. Cette fois, il va chercher son père. Contre les murs de la caserne, la tension grandissante se constate à l'empilement de plus en plus haut et épais de sacs de sable. Plusieurs fois, les soldats ont demandé à Ali d'aider à décharger les camions et le poids de ses boucliers naturels lui a fait grincer le dos. Ce matin de juin, c'est la totalité du bâtiment qui exhibe sa doublure interne de jute et de sable, et dans la cour rétrécie, le son prend un caractère mat. Ali demande, comme d'habitude, à parler au capitaine. Le soldat en faction lui répond en levant à peine les yeux de son magazine qu'il est sorti. « À qui je peux parler alors ?»« Le sergent Domas est là. » Domas a une tête de rat ou de coucou, avec sa pomme d'Adam proéminente. C'est lui qui a regardé les hommes battre la vieille Tassadite sans intervenir. C'est lui qui a tué de sang-froid Fatima la pauvre et Rafik. Ali le déteste, et Domas le lui rend bien. C'est plus fort que lui, il n'aime aucun indigène. Il pense qu'il aurait fallu les gazer comme les Américains ont gazé les moustiques au DTT en débarquant dans les îles Pacifiques. C'était le seul moyen de rendre l'endroit habitable. Ben, « qu'est-ce que tu veux ?» demande le sergent. Il ne pose la question que pour la forme. « Protégez ma maison !» dit Ali. « Ce n'est pas possible !» « Donnez-nous des armes, pas possible. Emmenez-nous ailleurs dans une de ces bases françaises qui va rester. Ce n'est pas possible. Mettez-nous en prison alors. Là au moins on sera en sécurité. » L'autre hausse les épaules. Le FLN s'est engagé à ne pas maltraiter les harkis. Ali éclate d'un rire amer, répercuté dans le nez, dissonant. « Et vous le croyez ?» Domas ne peut pas ignorer ce qui se passe partout dans le pays depuis quelques mois. Les tribunaux improvisés dans les villages, les règlements de comptes au milieu de la nuit, les embuscades sur les routes. La nouvelle de la signature des accords n'était pas encore parvenue aux habitants des campagnes les plus reculées que les veuves de la libération commençaient à fleurir. Ali passe d'un pied d'appui à l'autre. Grand corps oscillant comme l'aiguille d'un métronome, ses yeux plantés dans ceux du sergent qui s'impatiente. C'est toujours pareil avec les bougnoules, on leur donne la main, ils veulent le bras. Domas se demande qui est l'enfant de putain au cœur de catéchumène qui a eu la brillante idée de les enrôler. Écoute, mon vieux, dit-il dans un dernier effort, tu n'avais qu'à choisir le bon côté. « Toi, tu as choisi le mauvais ?»« Non, mais je suis français, moi. »« Moi aussi ?» Quand Domas désarmera la harka de la caserne quelques jours plus tard au moment de quitter la base, il dira à ses hommes en montrant les supplétifs désavoués après des années d'obéissance « S'ils essaient de monter dans les camions, marchez-leur sur les mains. » Il leur montrera même l'exemple, ce meldoir des godillots contre jointures blanchies par l'effort. Allez, pas d'état d'âme! Sur une vieille affiche annonçant le référendum à côté de la gare de Palestro, le général de Gaulle a confiance en vous. Ayez confiance en lui, votez oui.
نبغى نخرج شو يلا
إيه
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, L'art de perdre, suite. Les trajets de la crête à la vallée sont trop risqués maintenant que chaque coin de forêt aux branches enchevêtrées, chaque taillis de cistes aux feuilles velues paraît abriter des maquisards. Alice se résout à quitter les sommets et installe toute sa famille dans le petit appartement du centre-ville, loin des territoires contrôlés par les Amrouches ou par les fils de Farid. Dans les rues larges et droites de Palestro, il est possible de croire encore que la police et l'armée française font régner l'ordre. Yema et les enfants n'ont pas le droit de sortir, pas le droit de répondre aux coups de sonnette. Ali ferme la porte d'un double tour de clé chaque fois qu'il s'en va, ce qu'il ne fait jamais sans vérifier préalablement, caché derrière le rideau de la cuisine, que personne ne l'attend dans la rue. Le premier jour, Hamid, croyant qu'il peut esquiver les ordres parentaux comme il le faisait sur la montagne, tente de se faufiler dehors à la suite de son père. Il reçoit une dérouillée comme il en a peu connu. Les bleus, avant de disparaître, passent par toutes les couleurs du marché de la Grand Place, qui n'a d'ailleurs plus lieu. Aubergines, pommes, blettes, bananes, citrons. Chaque matin, Ali retourne à la caserne et tente de s'entretenir avec le capitaine. Chaque matin, on lui répond qu'il n'est pas là. Les départs des Européens forment désormais une hémorragie continue qui laisse au cœur de la ville des poches de silence. Le café du centre a fermé. Et la boutique de l'électricien, celle du disquaire. Il y a des planches clouées en X sur la vitrine de celle du charbonnier. C'est peut-être une feinte de Gaulle, se répète Ali. C'est juste pour faire sortir les derniers maquisards du bois et pour que les rebelles planqués à l'étranger se montrent. Il ne peut pas croire que ce soit la fin. Il n'a jamais vu de pays changer de main, il ne saurait pas en reconnaître les signes. C'est par hasard qu'il croise le capitaine. Ou du moins les deux hommes font-ils semblant de croire qu'il s'agit d'un hasard alors que l'officier sort de la boutique de Claude. c'est-à-dire de chez Michel. L'absence d'interprète les oblige à des phrases courtes, des phrases hachées, échangées en urgence, sans certitude d'être compris. « Je suis venu plusieurs fois, » dit Ali au capitaine. Celui-ci soupire. « Je suis désolé. » « Il faut que tu m'aides, » dit Ali. « J'ai perdu la montagne. Je ne veux pas perdre la vie. » Ils se tiennent devant la petite épicerie dont la vitrine s'est vidée et qui exhibe les espaces laissés à l'abandon de ses étagères. « Ils vont me muter, » dit le capitaine en mimant de sa main le mouvement brutal et en même temps si facile de la mutation. « Dans quelques jours, je serai parti. Je ne peux rien. » « Pourquoi tu vas ailleurs ?» Le capitaine soupire à nouveau. « Oh, écoutez, dit-il, autant être sincère. Ils ne veulent pas que je voie ce qui va arriver. Ils ont peur que je réagisse mal. Apparemment, en haut lieu, on me trouve trop sensible. » Entre les tomates séchées et les paquets de semoule, il n'y a plus l'habituel cajot de poivrons. La planche est nue et se couvre déjà de poussière. Claude, Michel et Annie vont partir eux aussi. Ils ne croient pas aux clauses des accords déviants qui leur assurent une pleine protection des personnes et des biens. Ils ne savent plus exactement en quoi ils croient, mais ils se disent qu'ils auront le temps de le déterminer une fois qu'ils seront au calme. Claude a organisé leur départ. D'ici à 2 semaines, ils quitteront Palestro. Il y a des gars qui sont venus me voir me dire de ne pas le faire, raconte-t-il à Ali. Le genre patibulaire. Ils prétendent que c'est à nous de donner l'exemple maintenant que De Gaulle s'est débiné. C'est chez nous, on reste ici et tout le tralala, mais qu'est-ce qu'ils croient ? Que j'ai envie de quitter l'Algérie, que je le fais par plaisir. Il se tait. Moi je veux partir aussi, dit Ali, en France. « Venez !» s'exclame Claude, presque gaiement. « Je me sentirai moins seul. »« J'ai pas les papiers. J'ai peur. J'ai peur pour les enfants, pour Hamid. » Au nom du petit garçon, Claude sursaute. Il se cogne le coude contre la caisse métallique qui trône encore sur le comptoir. Elle projette brusquement son tiroir vide avec un tintement mélodieux. « C'est stratégique !» pense Ali, le visage collé à la vitrine de la cuisine. Une fois qu'ils auront vidé le pays des Français et des Algériens qui leur sont restés fidèles, alors ils vont revenir pour bombarder. Rien que pour ça, il faut partir. La mauvaise conscience de Claude se cristallise autour d'une bribe de phrase. Ce petit arabe que nous avons quasiment adopté. Les 8 mots suffisent à le priver de sommeil. Dans l'appartement du premier, malgré l'énorme ventilateur de bois suspendu au plafond, il fait une chaleur étouffante et ses paroles lui reviennent sans cesse. Il ne peut pas avoir dit, répété cela et abandonné pourtant Hamid au moment de son départ, sans se soucier de ce qui adviendra de sa famille. Alors, dans la précipitation des préparatifs, il supplie Michel de parler au capitaine. Tout le monde sait dans la ville qu'il dispose encore de puissants réseaux. On dit qu'il s'est procuré des papiers pour certains des harkis de Palestro. Claude empile les meubles et plie les vêtements, il balaie et dévisse de grands cadres de bois tout en disant d'un air peu convaincu « Il faudrait peut-être repousser le départ ». Sur l'oreiller, dans le demi-sommeil qui suit l'amour, le capitaine promet à Michel qu'il fera tout son possible. Dans son logement de fonction vide, il ne reste pas grand-chose, sinon ce matelas imposant sur le sol. Les doigts de Michel courent sur le ventre plat et blanc, jouent avec la toison pubienne, contournent délicatement le nombril. Il y a quelque chose d'absurde, d'obscène ou de tendre. Dans le fait que la survie d'une famille puisse être rendue possible par les courbes du corps de Michel, par ses seins lourds, ses fesses pleines, son visage dans la pénombre de la chambre et les mèches de cheveux qui lui tombent sur les yeux. Si tu arrives à te rendre jusqu'à Tefeshoun, dit le capitaine à Ali, tu pourras passer en France. Là-bas, ils ont un camp qui héberge les supplétifs et ils les mettent dans les bateaux. Je les ai appelés pour donner ton nom. Ils pensent que tu as fait partie de mes hommes. On se reverra en France, dit Claude, en faisant semblant d'y croire. Bruit du rideau métallique qui tombe. Dernière vision de la jupe blanche et bleue d'Annie qui monte dans une grosse automobile noire. Les gestes de Claude, vifs comme des mouvements d'oiseaux, la bouche de Michel, sa peau dorée, les cartons, les malles et les quatre pieds d'une table qui hérissent le véhicule. À la fin des années 2000, Naïma finit de mettre en page le catalogue d'une exposition de Thomas Mailänder. La galerie présentera le mois prochain son travail sur les voitures cathédrales, ces véhicules chargés jusqu'à la gueule, coffres ouverts de paquets multicolores et sur les toits desquels s'entassent les couches de valises à l'équilibre plus ou moins fragile. L'artiste les a photographiées en 2004, sur le port de Marseille. Elles n'ont plus de plaque d'immatriculation. Elles peuvent venir de n'importe quel pays et aller partout ou nulle part. Peut-être qu'elles sont arrêtées là pour de bon, sur ce parking fantôme. Peut-être que l'une d'elles contient un nounours râpé qui ressemble à celui d'Annie. Ces containers roulants sont une matérialisation évidente du concept de frontière et des frottements culturels qui en découlent, nous dit Thomas Mailänder. À l'arrière du véhicule, coincé entre une valise et un bureau d'enfant, Annie se retourne à grand-peine pour faire des signes de la main. Liste des priorités probablement établies par Ali, plus ou moins consciemment. 1. Sauver Hamid. 2. Se sauver lui-même. 3. Sauver Yema, Kader et Dalila. 4. Tout le reste. Les yeux fixés sur les ombres qui strient le plafond, il se repasse mentalement la route qui les sépare du camp de Tefeshoun. Note du général de brigade Le Ray, datée du 24 août 1962. Le respect de l'indépendance du jeune État algérien et le souci d'épargner à la France une surcharge stérile nous font une obligation de n'accorder notre protection qu'à des personnes dignes d'intérêt et réellement menacées pour leur action à nos côtés, à l'exclusion de toute autre catégorie. L'accueil ne peut être accordé qu'à des personnes qui viennent se présenter à nos postes pour solliciter leur protection. Il est interdit d'aller dans les villages chercher ces personnes pour procéder à la récupération des familles. Dans le chaos de l'été brûlant, Jamel, le petit frère d'Ali, disparaît. Les deux ouvriers agricoles qui l'accompagnaient sont égorgés. « Je reste », décide Hamza malgré tout. Les filles de la première femme d'Ali, déjà mariées, ne partent pas non plus. La famille tenue ensemble au gré du cycle des saisons éclate. La guerre entre finalement en elle, comme le soc dans la motte de terre, et l'éparpille en multiples adieux. Tefeshoun, aujourd'hui Kémisti, est située entre Tipaza et Alger sur la côte. Depuis le village d'Ali, c'est à moins de 200 kilomètres, 2h30 de route, annonce Google Maps à Naïma. Mais il s'agit là d'une durée idéale, qui n'inclut ni les ralentissements à chaque virage, ni les points de contrôle multiples de l'année 1962, bientôt tenus par l'armée française ou par le FLN. Au moment où Ali part, surtout, c'est une durée qui peut basculer brutalement dans l'infini de la mort. Dans la voiture, contrairement à celle de Claude, il n'y a aucune valise, aucun meuble. il n'y a pas non plus l'entièreté de la famille. Il n'y a que le père et son fils aîné. Rien qui puisse laisser croire qu'il chercherait à quitter l'Algérie. Ce n'est qu'un trajet habituel, un court voyage d'affaires. Yema les rejoindra plus tard avec les deux autres enfants. Son frère Messaoud les amènera jusqu'au camp. Qu'est-ce qu'il se passera si on nous arrête, Baba ? Demande Hamid quand son père se met à rouler. Ne t'inquiète pas. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.